Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes toujours très heureux quand nous savons que vous êtes très nombreux sur la 93.5 pour suivre cette émission Club de la Presse. Il sonne 11h et vous comprenez que c'est l'émission Club de la Presse. Mesdames et messieurs, bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Itekossi d'ATV assure la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousso au micro. Merci fraternel à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Vous le savez très bien, il y a Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takwame, Central FM à Sokode, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Merci à vous tous qui nous suivez partout au Togo. Vous avez ce privilège aussi de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre page Facebook et aussi notre chaîne YouTube. Et aussi, nous sommes accessibles sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi alors du monde entier. Merci de nous choisir. Et c'est toujours avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Confrères journalistes, Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à tous.
J'espère que tu vas bien.
Oui, ça va, et on tient le coup, quoi.
D'accord, l'essentiel est de tenir le coup.
Justement, au Togo, il faut tenir le coup.
C'est ça. Jachin Loko, bonjour.
Bonjour, bonjour Pascal, bonjour au Club de la Presse, bonjour à tous les confrères qui sont autour du plateau.
Mais ça fait deux jours.
Oui, ça fait deux jours, mais c'est par rapport à nos occupations. Vous avez eu à m'inviter maintes fois, mais je vous avais dit que...
Tout à fait, merci d'avoir fait la confession.
Dès que je serai disponible, je vais honorer le rendez-vous du Club de la Presse.
Et là, aujourd'hui, vous êtes disponible?
Oui, je suis disponible aujourd'hui.
Merci pour la confession.
Non, je ne pense pas qu'on doit faire la promotion de ce langage-là. Ça fait deux jours, c'est rentré presque dans les habitudes aujourd'hui. Hein.
Oui.
Hein, ça fait longtemps, ça fait deux jours. Quoi, voilà. Et presque, ça devient courant.
Oui, mais
deux jours, ça veut dire... C'est le langage, ça veut dire...
Ça fait longtemps. Nous devons travailler à corriger cela.
Voilà. C'est dans le langage courant. Juste un ami.
Pascal.
Là, je dirais, ça fait tout à l'heure, là. Comment vous allez?
Ça va, monsieur le préfet.
Ça va, ah, mais préfet comment? Je ne suis pas encore préfet quand même.
Préfet de la zone. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent, qui sont les fidèles de cette émission. Je m'en vais directement à la direction générale de la CET, où je salue le directeur et tout son personnel. Je ne vais pas citer de nom pour faire de jaloux. Donc, je vais également au niveau de l'agence de la CET à Nero pour saluer le premier responsable là et tout le personnel également qui travaille. Et particulièrement un ami qui m'est très cher, Dieudonné de Souza, qui s'active de l'autre côté là. Donc, bonne journée à tout le monde.
D'accord. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous attendons notre confrère Abbas Issaka qui, justement, doit nous rejoindre dans quelques instants. Mais il y a Santé Éducation qui est dans les kiosques ce matin et Abel William est là. Abel, bonjour.
Pascal, bonjour. Bonjour à tous les branchés de Canal FM.
J'espère que tu vas bien.
Comme les confrères le disent tout à l'heure, on tient le coup.
C'est l'essentiel. L'essentiel est de tenir le coup. Votre journal Santé Éducation dans les kiosques ce matin, je le disais tout de suite, et vous avez traité alors des sujets liés à la santé comme d'habitude. Et ce matin, vous évoquez cette superbe boisson à consommer après 40 ans. C'est ce que vous écriviez à la une de votre journal ce matin.
Oui, exactement. D'après plusieurs études, quand on dépasse, mais quand on franchit la barre des 40 ans, il y a plusieurs anomalies qui peuvent être courantes. Et la plupart, vous allez voir, ils ont de la graisse abdominale. Voilà, bon, il y a déjà les confrères qui sont d'accord. Et également, on peut voir que le métabolisme, en fait, ralentit. Quand pas de métabolisme, en fait, c'est l'ensemble de ces réactions chimiques, de ces réactions au niveau de notre organisme nous permettent, qui sont responsables de notre humeur, de notre vieillissement et de notre forme physique, en fait. Donc, toutes ces réactions chimiques, on peut voir que quand on franchit la barre des 40 ans, ce métabolisme ralentit. Donc, on peut être sujet ou bien on est plus à risque à des maladies chroniques, à des maladies cardiovasculaires. On le sait tous, hypertension qui est très récurrente. Aujourd'hui, le Togo est à 30%. Et les cancers, les AVC, la journée mondiale qui est célébrée hier. Et donc, toutes ces maladies chroniques et cardiovasculaires sont l'apanage de ces personnes-là qui franchissent la barre des 40 ans. Donc, et le plus important, il faut miser, il faut opter, il faut renforcer la prévention. Et on doit se statuer bien, on doit comprendre que l'alimentation est notre premier médicament. Donc voilà ce focus qu'on fait sur ce qu'on doit boire, quelles sont les boissons qu'on doit prendre pour avoir un bon métabolisme, pour avoir une bonne santé optimale quand on a 40 ans, mais quand on franchit la barre des 40 ans. Donc on a fait une liste de boissons fait maison. On prend le thé au curcuma, par exemple le thé aux épices, thé au curcuma, thé au gingembre, thé au clou de girofle, et on peut prendre un jus vert, un jus au persil, un thé à la citronnelle. Et surtout, faut pas qu'on néglige une boisson très 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 importante.
L'eau, vous voulez dire?
L'eau. Et c'est inconcevable de voir beaucoup de personnes durant toute la journée qui ne boivent pas de l'eau. Oui.
Toute la journée?
Exactement.
Comment ça?
Ah. Donc, on se goinfre, je vais le dire ainsi, de boissons sucrées, de boissons énergisantes. Il faut qu'on boive de l'eau. Il faut qu'on boive suffisamment d'eau.
Des fois, on attend qu'il y ait l'envie de boire, qu'on ait la soif d'abord avant de boire. Est-ce que là aussi, on n'a pas raison?
Oui, il faut avoir la soif. On a la soif et on boit de l'eau. Mais il faut boire suffisamment de l'eau. Et boire de l'eau, en fait, doit être en réalité quelque chose qui ne doit pas être, je vais dire, recommandé, en fait. C'est que l'organisme a besoin de l'eau. 70% de notre organisme est composé de l'eau. Donc, il faut suffisamment boire de l'eau. Donc, pour compenser l'énergie qu'on dégage chaque fois qu'on travaille, chaque fois qu'on marche, chaque fois qu'on va à nos occupations.
Et il semble que ça fait du bien au cœur. Hein,
ça fait du bien à tous les organes vitaux, de la tête jusqu'aux pieds. Donc, c'est important de noter encore que notre alimentation est très importante pour notre santé. Comme je le dis, c'est notre premier médicament. Et ce qu'on met dans notre organisme comme boisson agit également sur nos organes vitaux.
Mmh. Donc, ce qui est encore aussi vital pour notre organisme, c'est la pratique à l'heure de la marche. Vous écrivez, marcher une heure par jour, bien fait pour la santé. Donc, quand nous marchons, nous décidons alors de marcher une heure par jour, ça apporte des bienfaits pour notre santé.
Exactement. À part l'alimentation, il y a également l'activité physique. Donc, les deux marchent de pair, les deux marchent ensemble. Donc, la marche, c'est l'activité physique la plus simple et la plus efficace pour tout le monde, en fait, pour tous les âges. Donc, l'essentiel pour nous, dans cette vie de sédentarité qu'on mène chaque temps, chaque jour, l'essentiel pour nous est de bouger. Il faut bouger, il ne faut pas rester trop sédentaire. C'est-à-dire, ça tue nos organes vitaux. Donc, il faut bouger, il faut marcher et il faut que le corps se sente à l'aise, pas crispé, immobile, non. Donc, on recommande la marche. La marche est recommandée pour tous les malades, même pour tous les malades chroniques.
J'ai appris que quand on bouge beaucoup, ça fait du bien également aux articulations.
Oui, je reviens encore sur la marche qui est importante également pour également les malades chroniques. Vous êtes cardiaque, vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique, il faut marcher. Parce que dans cet article, on a évoqué 5 bienfaits de la marche en réalité. Donc, à commençant par notre système psychique et le cerveau jusqu'aux organes.
Ça nous déstresse quand on fait la marche.
Oui, exactement. Donc, ça déstresse, ça améliore la circulation sanguine, ça nous détend, ça renforce nos articulations, nos os. en fait. Donc, c'est ça l'important de la marche. Bon, en fait, c'est pas comme un marathon. On dit de marcher une heure, c'est pas comme un marathon, mais dans la journée, il faut que nous marchions. Dans la journée, il faut qu'on bouge. On peut, ceux qui ont des entreprises avec escaliers, on peut monter et descendre les escaliers. C'est une pratique de la marche également. Donc, c'est bon pour le corps, c'est bon pour notre organisme.
C'est bon pour le corps, c'est bon pour notre organisme. C'est un article à trouver dans votre journal Santé Éducation paru aujourd'hui. Alors, vous vous intéressez aussi au don du sang. Alors, on en parlait même d'ailleurs ces derniers temps. Vous écrivez « Conditions du don de sang, ce que vous devez savoir ». Qu'est-ce qu'on doit savoir, Abel?
Oui, d'abord, on doit savoir que le don de sang est bien plus qu'un simple geste. On doit comprendre aussi que le don de sang, c'est un acte de solidarité vitale et qui joue un rôle indispensable pour sauver des vies humaines. Donc, on peut voir que chaque jour, il y a beaucoup de patients à travers le monde et même ici au Togo et qui dépendent de la générosité des donneurs de sang. Et pour obtenir le sang dont ils ont besoin pour des transfusions et vitales, donc que ce soit pour traiter les maladies et graves, des blessures traumatiques, donc ou bien des interventions chirurgicales. Donc le don de sang est un acte généreux, est un acte solidaire. Mais on ne se lève pas comme ça pour dire je vais aller donner du sang. Donc l'article que nous avons écrit dans cette parution nous retrace toutes les conditions générales pour le don de sang. Vous allez par exemple au CNTS pour faire un don de sang. Il y a tout, en fait, il y a toute une procédure qu'on adopte d'abord. Il y a des examens, il y a peut-être des examens médicaux qu'on vous demande et il y a les procédures et il y a une préparation avant le don d'abord qu'il faut comprendre. Il y a également un processus de don qu'on vous fait comprendre. Et également, il y a des exclusions temporaires. Voilà. Donc, l'article explore toutes ces conditions-là et nous invitons le lecteur à lire, en fait, pour comprendre en réalité que le don de sang, oui, sauve les vies, mais attention, c'est pas tout le monde qui peut donner le sang parce qu'il y a des restrictions. Et il y a des exclusions temporaires également pour le don du sang.
Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui peut donner du sang. Il y a des restrictions. Il faudrait quand même que nous comprenions tous ensemble cela. Et ce sont des sujets quand même à découvrir aujourd'hui à la une de votre journal Santé Éducation qui est paru, qui est dans les kiosques hein, ce mercredi. Si nous voudrons avoir le journal, quelles sont les conditions, Abel?
Le journal est déjà dans les kiosques. La version papier est au prix de 1000 francs seulement. Et la version numérique, on peut le trouver, mais on peut le télécharger sur notre site www.sante-education.tg au prix de 500 francs.
Abel William, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir chaque mercredi pour parler de santé, surtout des sujets évoqués à la une de votre journal Santé Éducation. Merci d'être passé. Alors, chers confrères, nous allons aborder notre débat hein, de ce jour par ce sujet. Ce sujet que Sylvestre Béni, le journal La Machette, nous évoque. On en parlait hier. Vous écrivez à la une de votre journal La Machette, sport, football du jubilé, que Chéhi Emmanuel Adebayor soit réincarné. Alors, en quoi Chéhi Emmanuel Adebayor doit être réincarné, Sylvestre?
D'abord, nous saluons l'immense carrière de l'homme, qui a connu donc de très grands clubs européens au niveau de la sélection nationale. Il nous a fait rêver. Et c'est une très bonne carrière. Hein, c'est une star mondiale. Et donc, félicitations à lui pour sa brillante carrière. Mais au même moment, nous voudrons véritablement que de ce jubilé-là, qu'on connaisse une certaine métamorphose de l'homme. Je l'ai dit, hein, Chéhi nous a fait rêver tout ce qu'il a fait le week-end dernier. Quand on dit faire des choses en grand, c'est ce que nous avons vu la dernière fois avec ce grand jubilé. Il a tellement réussi sa carrière et puis la fin de sa carrière. Maintenant, sur le plan comportemental, nous voulons véritablement que ce Chéhi-là puisse être presque un homme nouveau. Pourquoi nous le disons? Parce que, vous savez, ce n'est pas tout qu'on doit toujours dire aux vieux sur du public. On dit très souvent que les laïcs sont le seul argent en famille. Et lorsqu'on voit ce chéri-là, cette star mondiale planétaire, qui, ma foi, se joint à eux, ne serait-ce que pour tenir un certain nombre de propos. Je voulais revenir sur les conflits un peu ouverts avec certains de ses anciens coéquipiers et tout. Vous savez, et nous voulons également qu'il change en thème donc, d'entourage. Vous savez, on dit très souvent que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Donc, chéri doit savoir aujourd'hui un sentiment. Et j'ai apprécié le fait que à la fin du match, la dernière fois, il s'est mis à genoux.
Tout à fait. Pour présenter ses excuses.
Il s'est mis à genoux pour présenter ses excuses. Il présente ses excuses au peuple togolais. Il présente ses excuses puis pour ses errements et ses inconduites. Donc, à partir de là, il faudrait quand même qu'il soit un autre chéri que nous voulons. Vous savez, quand chéri déconne son téléphone aujourd'hui, il appelle un club en Europe. Il dit, écoutez, j'ai un jeune que je vais envoyer pour que vous puissiez le tester. Mais c'est rapidement, les gens vont courir parce que c'est chéri qui est appelé. Voilà quoi, c'est ces chéri-là que nous voulons aujourd'hui, et qu'il soit réincarné et qu'il soit réincarné également en d'autres jeunes. C'est-à-dire, on veut, et je l'ai dit, avoir plusieurs chéri. Mais pour qu'on ait ce plusieurs chéri-là, il faudrait que lui aussi puisse véritablement s'investir. Voyez-vous, donc se réincarner en termes donc, d'image, de notoriété, de talent exceptionnel qu'il a. Et il faudrait que ce chéri-là, qu'on ait encore plusieurs chéri dans les années à venir, mais pour qu'on on ait également ce chéri-là, il faudrait que lui-même aussi puisse revoir un peu son côté comportemental. C'est important, c'est ce que nous avons quand même souligné ce matin et salué également sa carrière. Qui, il faut le dire, 10 colombes, et lorsque vous voyez ces 10 colombes là aussi, Monaco, Manchester City, Real et tout ça, il faut être chéri pour le faire. Voyez-vous donc, à partir de cela, ce que nous demandons, et lui-même il a déjà commencé, il a présenté ses excuses à genoux, c'est un geste fort aussi. Maintenant, que ce soit le déclic quoi. Bon, on ne veut plus se chier, il a des réseaux sociaux, voilà, quand ce n'est plus tellement, c'est pas ça quoi, qu'on veut de lui. Voilà.
Jochen, c'est vrai que Chéhi a fait des parcours, un parcours très appréciable hein, par rapport à, même d'ailleurs au football. Est-ce que vous avez aussi envie de voir un nouveau Chéhi?
Oui, non, mais tout le monde a envie de voir un nouveau Chéhi. Quand nous allons sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de comportements qui est affiché. Je dis ces comportements. Je pense que c'est un article bien réfléchi du confrère. Là, je le tire chapeau bas. Et donc, chez nous voudrons voir chez lui une réincarnation, un homme nouveau. Parce que c'est vrai que les stars aiment toujours faire le buzz. Ça, c'est toujours comme ça. Parce que quand on est star, on est star. Quand on est star, on veut se faire voir. On est comme une femme. Les femmes n'ont qu'à m'excuser, mais comme on est star, on est comme une femme. Mais quand même, aujourd'hui, par rapport au clash qu'il a eu avec ses anciens coéquipiers, par rapport à un certain nombre de situations, nous voulons quand même voir chéri, comme
oui,
l'a dit,
oui,
un chéri nouveau,
oui,
un chéri complètement métamorphosé, transfiguré, pour qu'on sache que c'est le vrai Adebayor que nous voulons. Il nous a fait rêver sur le plan footballistique, il va sur le plan comportemental, qu'il change.
Oui, mais bon, quand vous dites que non, quand on est star, on aime toujours se faire voir, comment se fait-il qu'on ne le voit pas hein, chez des gens comme Eto'o et aussi Drogba et ça veut dire qu'il y a un souci, c'est ça?
Non, mais de toutes les façons, tout le monde a son comportement. Ça, c'est clair, parce que nous, on peut sortir du même ventre, mais on n'aura pas les mêmes comportements, on a reçu les mêmes éducations. Il y a la personnalité, il va falloir qu'il grandisse. C'est ce que nous voulons, qu'il grandisse et qu'on sente que c'est quelqu'un qui peut porter haut. C'est vrai, il a porté haut le Togo, mais il doit porter haut le Togo sur le plan comportemental en mesurant un peu son langage. En réfléchissant bien, je ne dis pas qu'il ne réfléchit pas, mais en tournant bien sa langue dans sa bouche avant de sortir les mots.
Vous estimez ce qu'on veut. Vous estimez qu'il doit être encore plus mature.
Bien sûr, il doit être plus mature.
D'accord, Justin. Oui, mais quand on prend la carrière de Chéhi Emmanuel Adebayor, on sait que cette carrière a été même d'ailleurs, enfin le chez Emmanuel Adebayo qui vient même d'ailleurs de loin. Il vient de loin quand on voit sa carrière et même d'ailleurs quand on a vu déjà le fait qu'il est au firmament même d'ailleurs de sa carrière aujourd'hui, il raccroche. Qu'est-ce que le Togo, est-ce que vous estimez même d'ailleurs que le Togo arrive à profiter massivement de cet homme ou de cette légende comme certains le disent?
Non, je ne le pense pas parce que Shea Adebayo, c'est un footballeur, c'est une star exceptionnelle et qui, moi, après analyse, je me rends compte que personne ne lui dit ce qu'il doit faire. Donc, je dirais même qu'il est indépendant de tout ce qu'il pense, de tout ce qu'il voit comme peut-être élément à développer, élément à apporter comme contribution d'une manière ou d'une autre. Maintenant, est-ce que Cheyi a apporté? Et je ne le pense pas. Pour la simple raison que dans notre pays, quand vous suivez comment Cheyi a commencé et est arrivé là où il était, avant de raccrocher aujourd'hui, et je dis que quand on parle de Cheyi Adebayo, c'est un destin. Donc un destin dans la mesure où nous sommes dans un pays où certains ont pris sur eux la volonté, l'engagement d'aider ces acteurs-là qui sont des acteurs du futur en matière de football. Quand vous prenez le centre à Koussa Kamelo, là où Cheyi a passé au commencement, et sa chance d'aller se retrouver à Metz pour sa formation, et puis avec les clubs successifs dans lesquels il a eu à jouer, vous analysez, ce ne sont pas des moindres, ces clubs-là. Donc, je dis que Cheyi Adebayo, c'est un destin. Pourquoi Cheyi n'a pas apporté, ou quoi, pourquoi il serait difficile à Cheyi d'apporter? C'est parce que Togo n'a pas eu une politique sportive. On n'a pas eu une politique sportive. Donc, lorsque vous n'avez pas une politique sportive, et notamment dans le domaine du football où Cheyi a émergé, et Cheyi fait parler de lui un peu partout, Cheyi Adebayo, le Togolais, voilà, on se rend compte qu'il y a ce pays qui s'appelle le Togo. Et ça fait que certains même confondent le Togo par rapport à ce petit pays-là, de, je crois, de l'Amérique latine, Tobago, voilà.
Où, Trinité Tobago.
Voilà, donc on n'arrive pas à cerner qui est ce Cheyi Adebayo. Ah, le gars là de Manchester, ah, partout il a passé. Hey, grâce à Cheyi Adebayo, on a connu le Togo. Merci. Mais pourquoi le Togo n'a pas eu, ou le Togo n'a pas de politique sportive? Donc le Togo n'a pas de politique sportive, c'est pas la part de la gouvernance. Et quand vous prenez les ministères ou les ministres qui se sont succédés là, moi j'ai eu la chance de raconter certains qui ont eu à faire des propositions dans pratiquement dans toutes les disciplines sportives. Le football, particulièrement qui est un sport roi où les gens sont tellement si intéressés, on n'arrive pas à cadrer les choses. Vous voyez tout ce qu'on a connu comme cacophonie avant la signature du sélectionneur et patati patata. Tantôt, voilà le président de la fédération. Est-ce qu'il doit partir? Il a fait 3 mandats ou 2 mandats. Il n'arrive pas à apporter de solution. Non, il dit qu'il ne va plus se représenter. Maintenant, il revient. On mélange tout à zéro. Aujourd'hui, il est encore là. Et au niveau des clubs, qu'est-ce qu'on a en matière de politique sportive, en matière de dotation pour ces clubs? Les clubs de première division, les clubs de première et deuxième division, ainsi de suite. Le championnat féminin. Je pense que c'est tout un ensemble. Et lorsque vous vivez dans un pays et que vraiment si vous aimez le football et que aujourd'hui où le football est devenu pratiquement, je dirais une industrie, et qu'on n'arrive pas à définir où on veut aller dans 5 ans, où on veut aller dans 10 ans, il n'y a pas tout un programme là-dessus. Je pense qu'on peut beau avoir 1000 fois Cheyi au Togo, mais on serait toujours à la traîne. Mais lorsqu'on aura une politique sportive dit de ce nom, et je pense qu'avec le geste fort de Cheyi Adebayo la fois dernière, j'ai fait observer tout à l'heure que c'est quelqu'un qui est indépendant, personne ne lui impose quoi que ce soit. Mais si à un moment donné il s'est rendu compte qu'il n'a pas tellement apporté, il s'est agenouillé, il a présenté ses mea culpa, il a demandé pardon au peuple togolais, à tous ces acteurs là d'une manière ou d'une autre, à qui il a eu à offenser ou non. Je pense qu'il revient de meilleurs sentiments. Ce sentiment-là, moi, je le lui conçois et je demande à ce que ce sentiment l'accompagne partout où Cheyi passe, et qu'on a une autre image de Cheyi Adebayo par rapport aux images restantes de Cheyi Adebayo sur les réseaux sociaux qui n'honorent pas la République. Donc, je reviens à dire que Cheyi, il est utile. Mais avant que ce qu'il a comme potentialité soit quand même profitable pour le pays, il faut qu'on ait arrivé à avoir une politique sportive en la matière dans le domaine.
D'accord. Alors, quand vous disiez que chez Emmanuel Adebayo est un destin, ça me rappelle bien l'ouvrage alors de Zeus Aziadouvo sur le sujet, bien sûr, sur la personne de chez Emmanuel Adebayo. Chez Emmanuel Adebayo, un destin, bien sûr. Alors, Sylvestre, quand on suit notre actualité sportive aujourd'hui, oui, Justin nous dit que c'est parce que cette politique sportive n'est pas là, n'est pas disponible aujourd'hui. C'est pour cela que chez Emmanuel Adebayor n'apporte pas, c'est bien qu'il est utile, mais qu'il n'apporte pas aussi ce qu'il pourra apporter au football. Est-ce que vous êtes du même avis?
Non, écoutez, dire que chez n'a pas apporté au football togolais, on va nuancer. On va nuancer parce que lorsque vous voyez un peu le parcours de l'homme, hein, tout ce que vous voyez un peu depuis qu'il joue en sélection. Je crois depuis 2000 autant donc des cadres hein, où on portait ces gros maillots là, bon c'est la l'équipe qui me revient pas. Mais s'il était là depuis, il a même joué
non,
la CAN.
Après le terrain. Oui.
Ah, justement.
Après le terrain.
Oui, c'est ce que nous disons aussi. Il faudrait quand même qu'il apporte après le terrain. Et là aussi, je vais aussi encore nuancer parce que, écoutez, on n'a pas élu Chéhi comme président de la République pour apporter quelque chose au Togo. Le gars, il a bossé, il a gagné son argent. Maintenant, s'il veut faire quelque chose dans le social, c'est son libre arbitre, libre à lui de le faire. Et puis, il le fait déjà. Hein, et au niveau donc de l'éducation, je vois des bourses ici. Il a créé une fondation, il y a des centres de formation, des bourses et tout ça. Ça, c'est déjà bon. Bon, s'il le fait, bon, on ne l'a pas élu pour le faire. Ce qu'on a élu pour qu'on puisse donc bien gouverner et qu'on ait quelque chose on a beaucoup donc... Que beaucoup donc ne soient pas laissés sur le carreau. Eux, ils sont là, ils ne font rien. Je crois qu'on va revenir là-dessus. Maintenant, Bouchéi, lui, il apporte quelques touches au niveau du social et tout, au niveau du social, éducation et tout. Maintenant, c'est au niveau donc du comportement que nous déplorons un peu. Parce que lorsqu'on le voit un peu sur les réseaux sociaux, hein, et ça prend à certains de ses coéquipiers. Je ne vais pas encore donner des noms pour que ça enflamme encore la toile et tout ça. On connaît un peu l'histoire récente avec sur les réseaux sociaux, si bien que même un ancien épervier est également sorti pour... ça prend également à Chéhi. Lorsqu'on voit tout ça là sur les réseaux sociaux, et encore qu'il y a quelques entourages aussi de Chéhi qui, ma foi, n'ont véritablement pas le niveau de ces anciens, mais qui viennent aussi dire... sortir donc des mots blessants à l'endroit donc de ces anciens imperviers. Tout cela ne doit pas se faire. S'il y a un problème entre Chéhi et X, je veux bien que Chéhi et X se retrouvent donc entre un 4000 qui se parlent, qui se disent les vérités, les quatre vérités en face, et après ça rentre entre les deux murs, et puis bon, la vie continue. Pas sur les réseaux sociaux, hein, ça se lave en famille, tel qu'on le dit. Maintenant, c'est ce comportement-là qui doit un peu changer. Hein, lui-même, il dit, je crois qu'on était à sa conférence de presse d'avant le jubilé, il disait que lui, quand le pays est calme, lui, il n'aime pas. Vous voyez un peu.
Comment ça?
Oui, c'était quand tout est calme que lui n'aime pas, il faut mettre un peu du piquant là pour que tout bouillonne, quoi, vous voyez. C'est ça que nous voulons véritablement qui corrige. On peut mettre un peu de piquant, mais sur les réseaux sociaux, il faut que ça soit mesuré. Il faut véritablement changer. C'est ce chéri de changement que nous voulons. Maintenant, si bon, les gens ne mangent pas leur faim, si chéri a de l'argent, ils ne donnent pas. Au Togolais, c'est pas à Chéhi de le faire. Ceux qu'on a élus, qui sont là, qui nous ont dit qu'ils vont faire les 20 plus et tout ça, là, ils sont là, ils ne font rien.
Et on m'a dit quoi à Chéhi? Je sais finalement, en quoi Chéhi devait être aujourd'hui utile en matière même d'ailleurs de football au Togo, parce que, on voit sous d'autres cieux et Tofis, qui est devenu même président de la fédération alors des Camerounais de football. Et il y a également Drogba qui a tenté même aussi le coup au niveau de la FIFA. Voilà. Mais chez nous, chez Emmanuel, devait être utile en quoi?
Non, mais de toutes les façons, le monsieur a prouvé sur le terrain ce dont il est capable. Et nous savons tous que Chéhi, c'est Chéhi. Aucun Togolais n'a atteint son niveau. Ça, félicitations à lui. Ça, on doit le savoir. Et donc, c'est dans le domaine footballistique qu'il doit tirer un peu plus haut le Togo quand il a raccroché. Je vais vous rencontrer une anecdote. J'étais dans un pays, c'est pas Anna. Et dans nos pays limitrophes, un pays lointain, vous savez que c'est là où j'ai compris que, au fait, c'est chez lui, porte loin le Togo. On m'a dit, on m'a demandé, mais tu es de quel pays? Je dis Togo. Togo. Togo, Congo, je dis non, 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 Togo, Togo, entre le Ghana et le Bénin, à côté du Nigeria, on dit, le pays d'Adebayo, dit, ah, Adebayo, Arsenal, d'Adebayo, Real de Madrid, vous voyez, ça veut dire que le Togo est connu par rapport à chez Mena. En quoi il va être utile? Je pense que quand son domaine chez lui peut être utile par rapport à ce que Eto'o fait, au Cameroun, chez lui peut le faire au Togo. Maintenant, il va falloir qu'on mette. Il doit assurer aussi ses vieux jours pour venir distribuer de l'argent. Ça, c'est non. Maintenant, il doit apprendre aux Togolais comment pêcher l'argent-là. Et en étant utile dans son domaine, puisque c'est une star. Et personne n'a atteint son niveau. Jusqu'à preuve contraire au Togo, personne n'a atteint le niveau de Chéhi. Et donc, c'est lui qui doit porter à la fédération. Il doit être utile. En tant que conseiller et chose, on doit pouvoir le prendre maintenant. C'est là où je vois la pertinence de l'article qu'a écrit le confrère Sylvestre. Il doit changer de comportement pour être utile. Parce que quelqu'un qui a atteint son niveau, il doit être un modèle pour la jeunesse togolaise, pour le football togolais. Et c'est ce qu'on n'a pas remarqué. On espère que en fin de carrière, puisque depuis dimanche, c'est un nouveau jour qui s'est levé pour lui, et il va redorer son blason. D'ailleurs, il a posé un acte très fort le dimanche dernier en Saint-Genois, en demandant publiquement pardon à tout le peuple togolais. Et on ose croire que c'est un nouveau jour qui se lève pour notre star.
D'accord, Justin.
Oui, tout à l'heure, je parlais un peu de cet article où on analyse un peu la vie de Chéhi Adébayo. Je ne sais pas celle qu'il mène aujourd'hui, non. Mais c'est sur le terrain que je parlais d'Adébayo tout à l'heure. Maintenant, si Chéhi doit apporter, je pense que Chéhi, par rapport à son parcours, il a plus d'expérience après. Et c'est cette expérience-là qu'il doit nous apporter aujourd'hui. En faisant quoi?
En étant entraîneur ou en étant président?
Ça dépend de
la fédération.
Chéhi est milliardaire, donc quitte à lui, il peut créer des centres d'agronomie ou aider les jeunes. Ça c'est un autre domaine. Quand on me présente Chéhi Adébayo, c'est pourquoi j'ai dit d'entrée que c'est un footballeur, c'est une star qui a fait son temps, mais c'est un destin qui est passé par là. Maintenant, Chéhi est libre d'aider la fédération ou de ne pas aider la fédération. Maintenant, la question de savoir, est-ce que la fédération veut de Chéhi? C'est ça, est-ce que la fédération veut de Chéhi? Puisque si le gars a pu faire ce parcours-là et raccrocher officiellement le dimanche dernier, c'est tellement que dans son jugeote, il doit avoir tellement beaucoup de choses à attirer de lui. Chéhi, on peut jamais l'imposer quoi que ce soit. Il est libre, ce qu'il pense, il le dit. Maintenant, est-ce qu'il va commencer par mener cette vie? Je ne saurais le dire. Mais moi, je dis qu'il revient à ces acteurs-là dans le domaine, il revient à ces décideurs-là d'imprimer, d'imposer une politique en la matière et voir ce qu'on peut gagner de Chéhi Adébayo. Lorsque vous n'avez pas cette politique-là, vous n'avez rien pratiquement, je dirais, hein, parce qu'on navigue à vue, d'accord? Et vous prenez pratiquement dans tous les domaines sportifs au Togo, que ce soit l'athlétisme, natation, canoë, kayak ou quoi, la bosse, tout. On a des problèmes. La seule discipline qui nous impacte un peu, un tout petit peu, c'est le football. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la qualification à faire les préliminaires pour les éliminatoires?
Non, mais en tennis, on fait de prouesse. Hein?
Avec quelle manière? Donc, c'est pour dire qu'il faut véritablement poser les bases. Quand on pose les bases, les talents sont là. On peut tirer, on peut gagner de ces talents-là. On a connu beaucoup de petits dans ce pays, non? Dans la discipline canoë-kayak. Actuellement, il est devenu quoi? Qu'est-ce qu'il apporte au Togo?
Vous voulez parler de Benjamin
Boukessi? Benjamin Boukessi, voilà. Donc, c'est autant d'éléments auxquels nous sommes confrontés, mais il revient aux décideurs, à eux de voir dans quelle direction.
D'accord, on va quitter ce sujet. Sylvestre, on quitte ce sujet de Chéhi et Emmanuel Adébayo. On s'intéresse à un autre sujet que vous avez écrit ce matin. Vous parlez de nouveaux contrats citoyens Togo, et vous écrivez nouveau contrat citoyen, Togo, remettre le citoyen au cœur de la nation. Alors, c'est quel nouveau contrat citoyen et qui veut maintenant remettre le citoyen au cœur de la nation?
Je crois que la transition est toute faite, puisque nous parlons tout à l'heure donc du sport, où mon confrère a si bien donc relevé qu'il n'y a pas une politique sportive qui puisse véritablement drainer les choses pour que on soit premier, hein, on soit premier partout. C'est vrai que depuis quelques jours, le tennis au niveau donc du tennis, on sort un peu la tête de l'eau. Mais pour combien de temps? Donc, s'il y a une vraie politique sportive avec des moyens, je crois que on y arrivera. Et justement, pour le faire, il faut remettre donc le citoyen au cœur de la nation togolaise, parce que si on a une vision, si on veut véritablement être les premiers, également, peut-être aussi le plan politique, puisque maintenant au-dessus de, dans, comment vous l'appelez là, business ready, premier réformateur, on est premier partout. Mais sur le plan politique, on n'est jamais premier. Sur le plan sportif, on n'est jamais premier. Sur le plan social, on n'est jamais premier et tout ça. Donc, pour qu'on soit premier là, il faudrait qu'on puisse remettre le citoyen au cœur de la nation togolaise. Il faudrait que le citoyen soit la priorité, un numéro un donc du gouvernement. Mais depuis là, depuis des années, on remarque que ce n'est pas le cas. Et donc, quelques Togolais ont réfléchi, hein, ont réfléchi sur le sujet, et pensent qu'il faut proposer donc des choses pour une refondation, hein, de la nation togolaise, pour une refondation donc de la République. Parce que depuis les années 56, depuis les années 58 avec l'autonomie, l'indépendance à 60 et tout ça, nous avons tendance à croire que la République est statique par rapport à nos voisins aujourd'hui. Bientôt, les Togolais iront donc à Vankas au Bénin. Vous voyez, oh, il fut un moment, je le dis, bon, avec un peu de fierté, il fut un moment quand le Béninois te dit, il va sur le boulevard, mais quand il te dit cela à Cotonou, il faut savoir que c'est à Lomé, il vient. Au temps donc de Seven Crash et tout ça là. Mais aujourd'hui, bon, bientôt peut-être on ira même chercher du boulot au Bénin. Donc la République ne est restée statique parce que la politique, la vision, tout cela n'y est pas. Et donc tel que je le dis, il y a quelques Togolais qui ont réfléchi à celui, qui ont accouché un document et qui veut proposer à la nation togolaise. Ce sera donc le nouveau contrat social. Si vous voulez, le nouveau contrat social avec les Togolais, où on va réfléchir dans tous les domaines de la vie togolaise, hein, que ce soit le sport, que ce soit la culture, la politique, tous les domaines. Et donc, il y a des commissions qui ont été créées et bientôt, ils vont partager. C'est vrai qu'ils ont échangé avec la presse le samedi dernier. Bientôt, ils vont élargir donc au reste de la population, ils vont discuter. Et c'est un document qu'on peut également amender parce que c'est pas un document figé, c'est pas une Bible, c'est pas de l'évangile. Ils viennent, ils vont chanter les merveilles, tout le monde va dire Alléluia, Amen, et puis on rentre. Non. C'est un document à parfaire, à amender, à apporter donc des solutions. Donc, ces Togolais ne sont que les initiateurs. Donc, bientôt, peut-être que c'est le peuple togolais qui sera l'initiateur. Et donc, si on arrive à implémenter cela et que ceux qui gouvernent aussi comprennent le bien fondé de la chose, bon, pourquoi pas? Il faudrait que tout le monde essaie donc de se fondre dans une véritable force commune, une dynamique unitaire, pour relever la République, telle que nous le disons. Ça fait des années, mais le Togo, c'est comme si c'est ce Togo, donc, de 90 que nous voyons encore, parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo circuler sur les réseaux sociaux. Cette vidéo datait de 1994, lorsque vous prenez donc la descente de l'hôpital à Nana Vigne Konakwa. Quand vous prenez la vidéo là, comparativement à ce que nous avons en 2024, c'est comme si c'est juste les arbres qu'ils ont coupés, c'est juste. Le reste est resté identique.
D'accord. Alors, on fait un clin d'œil à la technique, on revient juste après.
93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse, Joachim. C'est vrai que nous parlions de ce nouveau contrat citoyen et Sylvestre nous a développé un tout petit peu ce que ce document contient. Mais et finalement, il est très important aujourd'hui qu'on mette le Togolais ou le citoyen au cœur même d'ailleurs de la nation.
Non, mais ça c'est plus que fondamental. Si on veut évoluer, la ressource humaine est tellement capitale, que ce soit pour les entreprises, dans une société, c'est tellement capital, il va falloir que le Togolais soit au cœur, que les politiques publiques se basent sur le Togolais, c'est-à-dire que le devenir du Togolais, le bien-être du Togolais, voyez que les grandes nations, dans les grandes nations, c'est ce qui se fait. Vous voyez, en France, aux États-Unis, vous voyez qu'un Français, quand il a des problèmes à l'étranger, c'est toute la nation qui a des problèmes. Un Américain qui a des problèmes, le président peut se déplacer pour aller le chercher. Ça veut dire que c'est des gens qui connaissent la valeur de l'homme. Et pour n'importe quelle société, cela est important. Et donc, bon, c'est vrai que Sylvestre vient de dire que quand on descend la colombe jusqu'à au niveau de la lagune, il n'y a que des arbres.
Je parle de l'hôpital.
De l'hôpital.
On a coupé les fils là-haut.
On ne peut pas dire que rien. C'est vrai que il reste beaucoup de choses à faire parce que on revient de très loin, mais dire que rien n'est fait,
non, on a fait quelque chose, on a coupé les arbres.
Couper la bande des arbres, c'est quelque chose. Couper les arbres, ce n'est rien. Et donc dire que rien n'est fait, et là je ne suis pas d'accord. C'est vrai que le Togo avance. Le Togo que nous voyons aujourd'hui n'est pas le Togo des années 90, mais il faut, c'est le jour et la nuit. Bien sûr, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, mais c'est aux décideurs politiques, à l'ensemble de la classe politique, de s'asseoir, de discuter, pour savoir comment est-ce que nous allons faire pour redonner cette fierté-là, la fierté d'antan du Togolais. Quand on sort, on va à l'étranger, on sait qu'on te dit, tu es Togolais, ah, on te fait la main comme ça, que c'est bon. Et c'est pour cela qu'on doit recentrer le débat sur l'humain, sur le Togolais même, donner de la valeur au Togolais, pour que les choses puissent aller.
Alors, Justin, c'est vrai que quand on prend les différents classements que le Togo a obtenus par rapport quand on prend Doing Business qui s'est métamorphosé même d'ailleurs en Ready Business ou Business Ready, alors on comprend tout simplement qu'il y a quelque chose qui avance, mais finalement, et quand tu prends même les gouvernants, quand ils s'expliquent sur le sujet, on dit tout simplement que le Togolais est au cœur même d'ailleurs du développement.
Non, quand vous faites allusion à ces classements, et les résultats de ces classements-là sont sujets à polémique. Ces résultats-là sont colorés. C'est-à-dire que vous prenez le citoyen lambda, il ne se retrouve pas dans le classement. Maintenant, par quelle alchimie, celui-là qui vient faire l'enquête, et après avoir fait l'enquête, il produit un résultat, il s'apprécie dans le résultat, et après, on a découvert qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'il y a des résultats qu'on a publiés sur le Togo à un moment donné, ces résultats-là ont été attaqués. Papa, nous, mais ceux-là qui ont même commandité ces enquêtes-là. Moi, je dis plutôt que c'est une question de volonté. Ce qui me fait mal dans ce débat est que j'estime qu'il y a des gens encore qui sont plus indiqués, qui doivent véritablement poser le problème et discuter là-dessus. Mais malheureusement, on ne les sent pas. Pourquoi ? C'est parce que progressivement, la politique togolaise a conduit les acteurs à un stade où je dois m'incliner, je dois me plier, je dois faire partie du tel bord. Et surtout, même que le chef de l'État lui a le dit, c'est tellement, je crois, à Thévier, où il en sait comme quoi, si ça doit changer, ça doit provenir de son camp, le camp de sa formation politique. Mais à cette interrogation, moi je me dis, mais il y a encore d'autres ressources, il y a encore d'autres potentialités ailleurs qui ne font pas partie de l'UNIR. Maintenant, s'ils ne font pas partie du parti au pouvoir, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas la possibilité d'apporter un plus au développement de la République. C'est là où je doute par rapport à tout ce qui se fait. Mais c'est là où moi je dis, dans un pays ou dans une république, tout est politique, tout est politisé. C'est difficile de se démarquer. Ailleurs, mais on n'a pas attendu Talon fait plus de 10 ans ou plus de 15 ans au pouvoir avant d'apporter ce qu'il est en train de faire là au Bénin à côté. Et tout à l'heure, mon confrère, quartier latin, la ville de Cotonou, qu'on baptisait dans le temps quartier latin, quand vous y allez aujourd'hui, vous comparez, attention, vous descendez aujourd'hui à Accra, il y a des quartiers où avant, les Nima autres là, mais vous allez aujourd'hui, mais vous allez vous poser mille et une questions. Mais qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Ce ne sont pas des talents qui manquent au Togo. Soit vous devez dire quelque part, il y a une question de volonté politique qui est tellement absente. Sur cette base-là, vous allez beau avoir des idées, des avis, mais ça serait difficile maintenant de déclencher. Maintenant, ceux-là qui proposent, est-ce qu'ils seront attendus, même si le citoyen, à un moment, arrivé à un moment, a eu à se prononcer dessus? Parce qu'il y a une formation politique qui est au pouvoir, qui a conçu, je crois, les 117 c'est pas commune du Togo, pratiquement la majorité, c'est cette formation politique. La dernière ou les dernières élections municipales et c'est pas législatives et régionales, c'est la grande formation politique unique qui a encore raflé. Maintenant, quand vous voulez maintenant proposer que les gens disent, mais ce que vous proposez, nous avons ça déjà dans nos agendas, et que le constat est fait que ça n'évolue pas, vous allez faire quoi? Donc la politique, c'est une question de rapport de force. Mais si véritablement vous voulez que ça change à un moment donné par rapport à ces acteurs politiques-là qui proposent, je crois, il y a un parti le week-end qui a annoncé la co-gestion de Maître Agboubi Bois.
Ah, c'est tout à fait le cas. Oui, c'est le cas.
C'est le cas. Oui. Alors que c'est une idée qui est déjà annoncée. Maître Agboubi Bois l'a annoncé en 2008. Mais moi, j'ai connu Maître Agboubi Bois. Maître Agboubi Bois parlait de la co-gestion bien avant 2008, quand qu'il a annoncé ça. Et Maître Agboubi Bois nous a parlé de la co-gestion bien avant la signature de l'accord politique global. En 2006, le 20 août. Et le 20 août, voilà, si ma mémoire est bonne.
2006.
Voilà, 2006. Donc, ça voudrait dire que cette proposition-là, qui est d'abord une très belle proposition par rapport à ce que les autres proposent. Mais lorsque vous n'avez pas un rapport de force en politique, puisque tout ça, ça débouche sur ce qu'on appelle la transition politique, si vous voulez qu'on parle un peu de la politique. Donc, si vous n'avez pas le rapport de force pour dire cette démarche-là doit quand même conduire sur tel résultat, vous irez où? Je ne le pense pas. Bon, les idées peuvent quand même germer ici et là. Les acteurs peuvent quand même faire des propositions. Mais si le parti au pouvoir n'ouvre pas la vanne, je pense qu'on serait toujours resté
sur oui, je suis bien fait quand même de faire cette transition, puisque j'avais voulu même d'ailleurs qu'on embraye un tout petit peu sur cette proposition alors du CAR. C'est-à-dire le CAR qui demande aujourd'hui une co-gestion. Ce n'est pas nouveau quand même. Et parce qu'il y a santé du peuple qui demandait aussi cela entre-temps.
Non, écoutez, vous savez, avant donc de parler de co-gestion, il faudrait que les partis, les protagonistes, il faudrait qu'il y ait un rapport de force, je crois que le confrère l'a dit tout à l'heure. Vous avez vu qu'en 90, le pouvoir était presque à terre, il faut le dire, après les événements du 5 octobre et tout ça. Et donc, il a fallu qu'on aille donc à une conférence nationale qui est devenue souveraine plus tard. Et vous avez vu qu'il y a eu cette idée de co-gestion qui est arrivée, puisqu'on a réussi à imposer un premier ministre démocratique à Yadema. Et c'est presque ce premier ministre-là qui faisait tout. Yadema devait être un président comme on le voit aujourd'hui avec la nouvelle constitution, un président juste décor, tout ça. Mais il devait quand même participer ensemble au fonctionnement ou au développement donc, de la nation. Mais une fois que Yadema a réussi à avoir donc un rapport de force supérieur à ce qu'on avait à l'époque, mais il a réussi, il a dégommé le premier ministre. Et maintenant, il est devenu presque son valet. Voyez-vous? Donc, quand il faut parler de l'idée de co-gestion, il faudrait qu'il y ait un rapport de force. C'est-à-dire les deux se mettent d'accord pour gouverner, diriger le pays ensemble. Parce qu'il y a un élément qui les unit. Maintenant, aujourd'hui, unir qui dit qu'il a gagné ou qui dit qu'il gagne toujours les élections. C'est vrai qu'il faudrait quand même qu'on puisse me convaincre pour me dire qu'UNI a toujours gagné toutes les élections au Togo. Mais UNI qui dit aujourd'hui qu'il a gagné les élections, donc vous allez vers UNI pour dire, monsieur, c'est vrai, vous avez gagné, mais mettez-vous à l'écart, amenez le pouvoir, nous allons co-gérer ensemble. Mais c'est utopique. Voyez-vous? Donc c'est le moment où le cas propose cela, je me dis que le cas n'a pas bien analysé la situation avant de le faire. Et moi, je me dis parfois aussi que lorsque vous vous réveillez un beau matin et puis vous retrouvez un président de parti politique, vous ne savez pas quoi en faire. C'est à cette proposition-là que vous pouvez faire.
D'accord. Alors, Joachim, est-ce que c'est utopique vraiment cette proposition du CAR? Mais on se souvient même d'ailleurs en 2007, l'ancien président Agboubi Bois, je veux dire, président du CAR, était même d'ailleurs premier ministre. Et est-ce que là, on ne parlerait pas de co-gestion?
Co-gestion quand il était Premier ministre.
Tout à fait.
Quand il était Premier ministre, c'est vrai que l'opposition, lors des élections législatives de 1994, si ma mémoire est bonne, et à l'UTD, le CAR avait gagné. Mais il s'est fait que Yadema, étant un habile politicien, a renversé la situation. Et donc, c'est là où j'en viens. Cette histoire de co-gestion, c'est de l'utopie.
Puisque ça ne marchera pas.
Ça ne marchera pas, puisqu'il y a un parti qui a gagné les élections législatives. 108 députés. contre 3 pour l'opposition.
Qui dit qu'il a gagné? Qui dit qu'il a gagné?
Non, mais de toutes les façons, de toutes les façons, on a, nous avons subi la Cour constitutionnelle
a proclamé les résultats. Qui a proclamé les résultats.
La CENI a proclamé les résultats. La Cour constitutionnelle a confirmé les résultats. Et donc, officiellement, il y a le parti qui a gagné les élections. Comment, la politique étant un rapport de force, soit nous sommes en démocratie ou bien nous ne sommes pas en démocratie. La démocratie, c'est, ça dit que c'est celui qui gagne.
C'est la dictature du plus fort.
Voilà, c'est la dictature du plus fort. Mais dans le sens positif du terme. Parce qu'on fait une dictature pour conduire le pays, pour qu'il n'y ait pas blocage. Et c'est de ça qu'on parle. Soit nous sommes en démocratie, soit nous ne sommes pas en démocratie. Et aujourd'hui, étant donné que les choses sont ouvertes au sein du parti au pouvoir, le parti au pouvoir a gagné pour 5 ans. C'est le parti au pouvoir et qu'il revient de gérer le pays. L'opposition ne peut pas venir demander au parti au pouvoir de l'accepter pour qu'il y ait co-gestion du pays. Ça, c'est de l'utopie. Le parti au pouvoir n'acceptera jamais, étant donné que le parti au pouvoir a gagné ou les élections. C'est le vrai sens de la démocratie. Je gagne, je gouverne. Une fois que vous-même, votre parti gagne aussi, que le parti vienne gouverner. Votre parti vienne gouverner.
En 2006, au moins, ça devait marcher, puisque on sortait donc des événements du l'euro de 2005, ce qui a d'ailleurs conduit donc aux assises de 2006 avec l'APG, l'accord politique global signé le 20 août 2006, et Maître Agbegbo, qui était le président donc du président, qui a réussi donc à canaliser donc les ardeurs, à fédérer les énergies, jusqu'à ce qu'on en soit arrivé donc à cette Bible-là. Que disait, je crois que c'est l'Union européenne qui disait, c'était donc la Bible du Togo. À ce moment-là, on pouvait le faire, puisque on sortait des événements de 2005, l'opposition avait donc le vent en poupe, le régime ou le pouvoir togolais à l'époque était quelque peu fébrile, puisque, vu les événements que nous avons connus, donc après, il y a des. En ce moment-là, on pouvait parler de co-gestion, surtout en se fondant peut-être sur l'APG et tout. Mais on n'a pas réussi à le faire. Aujourd'hui, UNIR a sorti les cornes, UNIR est devenu donc. Mathieu, si on peut le dire ainsi, puisque entre-temps aussi il y a eu ce changement donc de sigle qui est peut-être qui est devenu UNI, même si j'ai toujours dit que c'est Pierre et Paul. Donc, mais aujourd'hui, UNI est devenu Mathieu et UNI qui a gagné les élections. Vous venez et quand on me dit aussi on va mettre la pression sur le régime pour accepter la co-gestion. Je me dis que comment on va le faire?
Ça n'a pas d'ailleurs pas de sens. Faire.
Donc la proposition du cas, je crois que les gars, ils se sont mal réveillés.
D'accord.
Ils se sont mal réveillés.
Je vous lis ces propos du ministre Christian Trimoin à la une alors du journal Togo Matin ce matin. Politique togolaise, nous avons le challenge d'aider l'opposition à se reconstruire, estime Dr Christian Trimoin. Alors, quand on prend ces propos de Dr Christian Trimoin, ça veut dire que au fin fond, le pouvoir a besoin également de l'opposition.
D'une manière ou d'une autre. Mais ça, peut-être que je n'ai même pas lu ça avant de commencer par prendre note par rapport à une certaine idée que j'ai à mon niveau. Maître Agbegbo parlait du déverrouillage des institutions de la République. Bien avant la proposition de la co-gestion.
Tout à fait.
Mais nous avons une particularité en matière politique au Togo. Quand vous remontez l'histoire depuis l'assassinat de Sylvanus Olympe en 63, vous évoluez avec les soubresauts qu'on a connus en 1994, politiquement bien sûr. Et tout à l'heure, le confrère parlait de l'habileté du chef de l'État et il y a des mains à reprendre la mèche. Mais je dis non. Puisqu'il y a aussi l'exclusion ou bien l'invitation des corps habillés dans la politique togolaise. Ça fait que lorsqu'on s'appuie sur les corps arbitres en politique, et quelque part, ceux-là qui sont toujours aux affaires ont la lourde responsabilité, ont la coudée, et franchement, maintenant, mener le combat comme ils le pensent. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé au Togo. Puisqu'on en a connu encore avec cette histoire de 19 août 2017, et après ce que cela a encore donné. Je ne vais pas encore remonter dans l'histoire pour parler de l'attaque de la primature, que ce soit le 1er octobre 1991, le 8 octobre 1991 et le 3 décembre 1991 de Maître Configo. Mais quand vous remontez, Mais par rapport à cette proposition dont je parlais tout à l'heure, le Togo sortait d'une situation rocambolesque en 2005. Il y a eu des morts, les rapports l'ont indiqué. Ok, qu'est-ce qu'il fallait faire? Les discussions qui ont eu lieu à Abuja devant l'ancien président Olusegun Obasanjo et M. Gilgil-Gilgil Olympio, ces acteurs-là se sont rendus compte effectivement les élections qui se sont passées par après le décès de Feu Yadema. Donc c'est l'UEC qui les gagnait. Mais on estimait que tel que le régime a duré, on ne peut pas sortir spontanément pour aller à l'alternance du tout. Donc il faut aller vers une transition. Et c'est cette idée de transition qui a conduit à M. Edem Kodjo d'être Premier ministre après. Rappelez-vous. Maintenant, M. Edem Kodjo, Feu Edem Kodjo étant Premier ministre, il fallait maintenant sortir le Togo de la situation-là. En faisant quoi? En ayant un document de base sur lequel on s'accorde pour aller dire « Ok, allons-y vers la transition ». C'est ce qui a mené à ce dialogue inter-togolais qu'on appelle APG,
l'accord politique global.
Global. D'abord, il y a eu accord politique de base, il ne faut pas oublier, avant que l'accord politique global ne soit quand même signé et ne s'est pas acté. Mais après, ces propositions-là, qu'est-ce qu'on a eu à connaître? Ça n'a pas évolué progressivement avec le RPT. Et le président de la République, Kefouria Sigbe, qui était en difficulté avec ses alliés, avec ses amis également. Et n'oublions pas non plus la communauté internationale, avec le sale jeu qu'il a eu à jouer avec le Togo. Donc, progressivement, en 2010, on dit, voilà, on va vous aider, la transition étant terminée, on a organisé les élections législatives. Voilà, malgré tout, avec le découpage, c'est le parti RPT qui a la majorité à l'époque, en 2010. On va vous aider. On envoie des techniciens, tout et tout, les machines, Bessat. On a gagné les élections en 2010, on dit le BESAT est bloqué. Après que les plus de 70% des résultats tombaient et les informations que nous avons eues à l'époque donnaient victoire à M. Jean-Pierre Fabre du FRAC à l'époque. Nous avons l'histoire encore vivante. Donc c'est pour dire tout simplement que nous sommes dans une logique où progressivement, ceux-là qui sont là, ils ne sont pas prêts pour l'alternance politique, ils ne sont pas prêts pour le partage du pouvoir. Maintenant, quand aujourd'hui vous ne créez pas de rapport de force réel, comme en 2017 à 2018, vous dites, maintenant, venons discuter, c'est comme ça qu'on va voir les choses là. De telle manière, nous avons concédé la politique. Maintenant, vous proposez au moment où Uni a tout, mais je vois mal comment est-ce que Uni va accepter au moment où le rapport de force n'est pas créé.
D'accord. Oui, mais Sylvestre, comment Christian Trimoin dit que nous avons le challenge alors d'aider l'opposition à se reconstruire. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on voit une opposition qui mérite alors d'être reconstruite?
Non, écoutez, moi j'ai toujours dit que tout pouvoir a besoin donc d'une opposition. Tout pouvoir a toujours besoin d'une opposition. Et puis, si un pouvoir devient de plus en plus fort, il faut savoir que c'est parce que l'opposition aussi devient de plus en plus forte. Voyez-vous? Maintenant, aujourd'hui, on voit un peu la situation. Uni a tendance à croire que devant ses maïs, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Je crois que, même avant le ministre Trimoin, l'ancien ministre de la Santé, le président du parti des sages, je crois, de Uni, je crois que c'est Charles Kondiaba,
avant sa mort,
il disait que bon, il y a plus d'opposition au Togo, que bon, devant il y a plus rien. Maintenant, c'est dans le même sillage, pratiquement dans la même veine, quand le ministre Trimoine nous dit qu'ils vont aider l'opposition à se reconstruire. Ils ont intérêt. Vous savez, un pouvoir qui a une opposition devant, c'est un pouvoir qui est entre guillemets sauvé. Parce que lorsque devant il n'y a rien, il n'y a personne pour que vous puissiez donc échanger, s'il n'y a pas un interlocuteur, vous avez vu, bon, c'est vrai qu'il ne faut pas donner certains exemples, mais vous avez vu un peu ce qui s'est passé au Burkina, où devant il n'y a même plus d'opposition, et c'est tout le monde est devenu presque opposant donc au régime. C'est-à-dire que devant il n'y a personne avec qui il faut discuter, et dans ce cas, Brice est parti. Parce que s'il y avait une opposition, moi, on devait appeler le chef de file de l'opposition, ou réunir les partis de l'opposition. Voilà, maintenant, le pays est bloqué, on fait quoi? Mais là, quand c'est tout le monde qui se lève, peut-être un bon matin pour dire, bon, c'est fini, ça deviendra compliqué. C'est pourquoi je dis qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait de l'opposition face donc à eux. Et pour qu'il y ait ces opposants-là, il faut donc libérer l'espace politique. Il faut permettre aux gens d'organiser les réunions, d'organiser les meetings. Il faut permettre aux gens d'organiser les conférences de presse, parce que je ne conçois pas pourquoi est-ce qu'un parti légalement constitué qui organise une conférence de presse à son siège, des militaires débattent pour dire qu'est-ce que vous faites ici, sortez.
Vous voyez que c'est inconcevable. Ça, c'est pas une république. Non. C'est pas une démocratie. Hmm. Or, le parti est légalement constitué. Il faut une conférence de presse et des militaires qui viennent, qui les dégagent ici. Vous faites quoi ici? Non. Vous voyez, donc, il faut libérer l'espace politique. Il faut qu'il y ait de l'opposition devant. Mais si on arrive jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'opposants, peut-être que, bon, un beau matin, peut-être que si c'est, tout le monde est devenu opposant, bon, ça deviendrait compliqué.
Alors, Joachim, quand on suit ces propos alors du ministre Christian Trimoire, est-ce que c'est juste alors des propos politiques ou bien on a vraiment la volonté alors d'aider l'opposition à se reconstruire tel que les propos sont stipulés?
Non, mais bon, de toutes les façons, Christian Trimoire, c'est un cadre du parti au pouvoir. Vous savez, le pouvoir aussi intérêt, comme vient de le dire nos confrères, à ce qu'il y ait une véritable opposition pour que le pays puisse marcher.
Ah, nous n'en avons pas pour le moment.
Non, mais on n'a pas une véritable opposition. Nous sommes en train. C'est vrai que nous sommes dans la période transitoire.
Mais qu'est-ce que vous appelez pas véritable opposition?
Donc, il y a une opposition transitoire.
Non, pas véritable. Une véritable opposition.
C'est quoi?
C'est une opposition qui peut capable de proposer, capable de proposer des choses quand le pouvoir ne fait pas bien. C'est ça une véritable capable de poser des problèmes, des problèmes au pouvoir. Et au Togo actuellement, c'est le boulevard. On n'a pas d'opposition. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Alors que dans le régime, quand nous prenons le droit conditionnel anglais, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le shadow cabinet, le cabinet fantôme. Le cabinet fantôme, c'est un véritable cabinet où le premier ministre de l'opposition, bien qui est le chef de file de l'opposition, il a beaucoup de pouvoir. Et pour que le pays puisse avancer, quand le pouvoir propose, c'est-à-dire la majorité propose, non. L'opposition dit non, non, nous devons faire comme ça pour que ça puisse aller. Maintenant, actuellement, au Togo, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce rapport de force-là. Et c'est là, le pouvoir a intérêt à ce qu'il y ait une véritable opposition, opposition très forte,
d'accord,
pour que le pays puisse marcher, parce que c'est l'essence même du régime parlementaire.
Ok, merci.
Alors que nous sommes en train d'aller dans le régime parlementaire.
Merci beaucoup, chers confrères. Chers confrères. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs qui s'impatientent aussi à rentrer en ligne, à participer à ce débat avec nous. Mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour la guérir. Écoutez, Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez participer à l'émission de ce jour, de ce mercredi bien sûr. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Oui. Allô?
Oui, bonjour Pélé.
Bonjour.
Comment vous allez?
Très bien.
D'accord, allez-y.
Ok, bon, je veux parler de... Parce que les Togolais disent que l'opposition a faibli et que le pouvoir en place RPT est venu à la force. Prenons que nous sommes sur le terrain de football et que je suis attaquant. Je prends le ballon, je distance sur le défenseur et le défenseur tombe par terre. Est-ce que je vais attendre que le défenseur se lève d'abord avant que je le dépasse pour aller marquer le but? Non. Je ne sais pas si c'est Marc le dit. Maintenant, l'opposition est faible. Qu'est-ce que le pouvoir fait en place? L'opposition, maintenant, elle est faible. Qu'est-ce que le pouvoir même fait? Avec 108 députés. Qu'est-ce qu'ils font? Mais avec 108 députés, la population est en train de manger dans les poubelles. Maintenant, c'est dans ce pays-là qu'on dit que ce pays-là est le premier pays heureux en Afrique. Selon la Banque mondiale, c'est ce qu'ils disent. Mais qu'est-ce qu'on veut faire avec le Togo? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont les institutions qui manquent à ce régime maintenant? Ou bien le président fort de gouverner bien? Parce que ça va prendre le pouvoir avec 5 députés au Bénin. Il avait tout le pouvoir avec 5 députés. Il gouverne. C'est-à-dire le pays marche sans coup de pioche, sans une obligation. Allez voir Cotonou seulement. À 150 km, vous allez aller à Cotonou pour voir. n'en parlons pas pour toutes les autres villes. Dans le village, maintenant, si nous prenions le Togo, ou bien Lomé, la capitale du Togo, deux villes proches, Aného et Kévié, vous ne pouvez pas rentrer à Aného que vous allez voir 10 mètres de pavé. À Kévié, 10 mètres, 20 mètres de pavé qu'on a construit. Il n'y en a pas. Maintenant, on veut quoi? 20 ans de pouvoir. 20 ans, Patrice Talon est en train de faire moins de 10 ans de pouvoir.
D'accord.
Mais tu ne peux pas tout partir.
Oui, mais merci beaucoup, Pélé.
Maintenant,
oui, Pélé.
Moi, je voudrais chuter pour dire...
Oui, mais rapidement, parce que il y a beaucoup de personnes. Allô, Pélé, il est parti et il a été largement compris. 90, 86, 35, 35. Allô? Allô, bonjour. Allô, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse lors de ce mercredi. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Allô, bonjour, je vous écoute.
Allô?
Décidément, il n'a pas de retour,
allô?
Notre ami. Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
C'est Canal FM.
Oui, c'est Canal FM. Votre nom, c'est... Allô? Non, mais Thomas, on reçoit notre auditeur.
Allô?
Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le journaliste.
Oui, comment vous allez?
Monsieur Toura.
Monsieur?
Je vous appelle de GTA.
Oui, oui, allez-y.
Je voulais participer à l'émission. Je vous jette des fleurs en disant que tout ce qui reste au Togo. La maladie du Togolais, c'est quoi? C'est l'alternance. On peut tout dire, tout ce qu'on va faire là. Sans l'alternance, le pays ne va jamais se développer. Quand vous parlez, Patrice Talon, il est venu là changer quelqu'un, il y a eu Bonnet. Il a fait. Quand vous allez au Ghana, vous allez dire comment ça se passe. Les anciens présidents sont là. Mais le Togo, notre président, il fait déjà 20 ans. C'est beaucoup. Mais il a fait. Mais ce qu'il a fait, on est en train de détruire ça. Et c'est comme ça. C'est comme ça. S'il n'y a pas l'alternance, pour qu'il y ait la concurrence là, je vous assure qu'on va faire un pas et après on va reculer 20 pas en arrière. C'est comme ça. Donc, bonne émission. Sans l'alternance là, on ne connaîtra. On va aider l'opposition pour se continuer. Et l'opposition, si on les aide là, est-ce qu'ils peuvent tenir tête? Il faut organiser la transparence, les élections transparentes. Et puis c'est fini. Où est le problème? Soit laissez la communauté internationale organise et ils vont vous calmer. Où est le problème? Merci.
D'accord.
Bonne émission.
Merci à vous aussi pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. Réagir sur les sujets débattus ici. Allô? Allô, bonjour. Allô? Décidément, il est parti. 90, 86, 35, 35. Si vous nous appelez, ayez au moins un poste récepteur à côté pour avoir le retour de ce que nous disons. Allô? Allô, bonjour? Allô? Oui, allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Monsieur Cyril, j'attends de... Ah, ouais.
Monsieur?
Cyril.
Cyril, allez-y.
Quelqu'un vient de se prononcer tout de suite. Vraiment, s'il n'y a pas d'alternance, on ne peut pas évoluer. Un exemple, le Bénin, aujourd'hui, est parti, nous sommes derrière. Le Ghana est parti, nous sommes derrière. Même le Burkina, qui est actuellement en guerre, plus que nous, ils sont en avance. Que le coup avant, Bénin prend d'avion avec également pour pouvoir voyager parce qu'il n'avait pas d'avion. Mais au moment où ils ont vite compris que, il faut s'asseoir et construire, ils sont assis ensemble, ils sont en train de construire leur pays. Écoutez, tous ceux qui sont autour du président actuel, même s'il a la volonté de travailler, ceux qui sont autour pour pouvoir rester et de toujours garder leur milliard, ne vont jamais accepter que celui-ci parte. Ils ne vont pas laisser la place à d'autres. Quand quelqu'un veut venir ici investir et avoir des milliards, on trouve qu'il vient pour arracher le pouvoir. Ce n'est pas possible. on ne développe pas un pays comme ça. Hein? Comprenons-nous, ce pays, petit pays-là, pourquoi on peut agir comme ça? Ayons pitié du peuple qui est en train de souffrir. Que le président Faure sache que tout ce qui est autour de lui sont là pour garder leurs milliards. Et qu'il approche plutôt l'opposition. C'est eux qui vont lui dire, faites ceci, ceci. Même ce qu'il est en train d'envoyer comme 5e République. Il peut être son premier ministre. Mais ensemble avec l'opposition, voit les réalités. On va s'en sortir. La route d'Apon Lomé, ça fait combien de kilomètres? Et on ne peut pas faire autoroute pour empêcher tous ces accidents. Ce n'est pas possible.
D'accord. Hein?
La ville de Lomé, elle est vilaine. Elle ne se présente même pas devant aucune capitale de la sous-région. Tout ça, là, c'est un défi.
Ok. Merci beaucoup, M. Cyril, pour votre intervention. Je pense que c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission d'aujourd'hui. Nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table. Mais avant de faire le dernier tour de table pour clôturer l'émission, je reçois Dr Aradi Kossi. Docteur, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Très bien.
D'accord. Vous êtes expert international en santé publique, spécialiste de la prévention des affections de la prostate et directeur également de l'association ou président de l'association IGL Africa. Alors, c'est vrai que déjà octobre, nous avons connu octobre ou nous connaissons octobre alors sur octobre rose qui est la lutte contre le cancer surtout au niveau des femmes, surtout le cancer du sein. Mais novembre aussi s'avance. Novembre, c'est plutôt alors pour la lutte contre le cancer alors de la prostate.
Oui, oui, effectivement. Effectivement. Le mois de novembre depuis 2003-2004 a été dédié pour la lutte contre les maladies des hommes. Vous savez, un constat a été fait, et c'est un constat traditionnel. Les hommes ne s'occupent pas de leur santé. Les hommes sont beaucoup plus occupés à envoyer leurs femmes en consultation. Et quand la femme devient grosse, on l'accompagne sur le parcours de la grossesse jusqu'à l'accouchement. L'enfant est né, on s'occupe de l'enfant, on fait les vaccinations, on fait les... Mais l'homme lui-même, il se néglige. Il ne va pas en consultation. Et pour répondre à ce constat, Novembre Bleu a été identifié et dédié pour sensibiliser les hommes sur comment prendre soin de leur santé. Et quand nous parlons de la santé de l'homme, c'est sur plusieurs aspects, mais l'élément le plus important, c'est la santé de l'homme en tant qu'homme. Et quand nous disons homme en tant qu'homme, nous parlons des organes vitaux de l'homme, nous parlons de l'arbre urinaire de l'homme, nous parlons de l'appareil génital de l'homme, et nous parlons de l'organe qui est au carrefour de ces différents appareils qu'on appelle la prostate. La prostate, c'est un organe vital. Et c'est l'organe le plus essentiel chez l'homme. Et c'est pourquoi vous allez voir, c'est cet organe qui donne toute la vitalité, tout le plaisir et tout le sens de la vie de l'homme. Et c'est le même organe qui constitue tout le grand problème que l'homme vit dans ce monde.
Alors, c'est un organe très important.
C'est un organe très important.
Oui, dans la vie même d'ailleurs de l'homme. Alors, oui, pour ce qui concerne alors le lancement même d'ailleurs de Novembre Bleu, vous avez une activité déjà le 5 novembre prochain.
Tout à fait.
Comment ça va se dérouler?
Tout à fait. L'activité du 5, c'est le lancement pour la première fois du mois de la campagne Novembre Bleu au Togo. Et ce lancement sera couplé avec le lancement du Prostate Champion Center de l'association IGL Africa. C'est quoi le Prostate Champion Center? Il s'agit d'un centre qui va s'occuper des questions de la prostate. D'abord, de l'éducation. L'éducation, l'information, la communication sur la prostate. Et dans ce cadre-là, le centre va travailler de façon rapprochée avec le ministère de l'enseignement primaire et secondaire parce que les gens ne connaissent pas la prostate. Nous ne connaissons pas la prostate. Quand vous prenez l'appareil urinaire ou l'appareil génital, vous ne trouverez nulle part où on a mis la prostate. Donc, il faut qu'on commence par enseigner la prostate, éduquer les gens sur la prostate. Et de deux, nous allons travailler pour que
les produits et les services soient disponibles pour les questions de prévention et les traitements de toute affection de la prostate. Le jour-là, le 5, nous allons offrir gratuitement les services de l'échographie de l'arbre urinaire pour que les hommes puissent connaître leur prostate, connaître l'état de leur prostate. Nous allons offrir à toute la population le contrôle de la tension artérielle. Maintenant, au-delà, nous allons faire le service de PSA, c'est-à-dire ça, le bilan sanguin, mais qui est payant. Durant la campagne Novembre Bleu, tous les services vont être offerts à des coûts réduits, à plus de 50% de réduction sur l'ensemble des services liés à la prostate.
D'accord.
Mais le jour J, le lancement, ce sera gratuit, surtout l'échographie de l'arbre urinaire et le contrôle de... Mais le PSA, il y aura la contribution.
D'accord.
Et les coûts seront connus. Parce qu'il y a deux packages. Un package pour le bilan sanguin qui est à 12 000 francs et un package pour le bilan sanguin plus l'échographie qui est à 22 000 francs.
On reviendra sur le sujet dans d'autres émissions.
Oui, oui.
Surtout que novembre, c'est encore devant nous.
Oui, oui.
On reviendra sur le sujet parce que nous n'avons pas assez de temps.
Oui, tout à fait.
Vous avez tout simplement compris cela.
On
reviendra là-dessus. Alors, chers confrères, nous allons rapidement faire un tour de table avant de clôturer l'émission puisque nous sommes à la fin. Oui, mais je vais vous revenir, docteur.
D'accord.
Oui, mais rapidement, oui, Sylvestre.
Non, écoutez, il y a deux personnes qui ont parlé donc de l'alternance. Je crois que l'alternance est une très bonne chose pour toute une nation. L'alternance est une très bonne chose pour toute une nation. Donc, je souhaite véritablement qu'on y pense sérieusement au Togo, parce que c'est la plaie, c'est la grande plaie de la République. Peut-être que le jour où on aura l'alternance, ce sera le déclic. Voilà.
D'accord.
Déclic Jachin? Pour le développement du pays, bien sûr.
D'accord. Jachin?
Durable et intégral.
Oui, Jachin, allez-y.
Non, mais je voudrais revenir sur... notre magazine Matinée Internationale qui est dans les kiosques. Matinée Internationale, c'est un magazine qui a pour vocation de soigner l'image du Togo à l'extérieur. Et donc, le magazine est dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national, dans tous les bureaux de poste. Et donc, moyennant 2000 francs, vous apportez 2000 francs et vous irez chercher Matinée Internationale avec des articles bien croustillants.
D'accord. Justin ?
Non, moi, je finis non seulement pour appuyer ce que les uns et les autres ont dit pour qui concerne l'alternance politique, parce que tout le débat aujourd'hui au Togo, ça concerne l'alternance politique. Ceux-là qui gouvernent également le pays et ont pris conscience que le Togo a soif de l'alternance, de cette histoire de la 5e République, régime parlementaire qui ne règle absolument pas le problème. Maintenant, pour ce qui concerne la déclaration du ministre, il n'est pas à son premier essai. J'ai eu à le suivre dans les années, je crois, 2017 ou 2018, où il s'est prononcé sur la crise à l'époque. Et je me rappelle qu'on s'est retrouvé dans un débat ici, je le lui ai rappelé, il m'a dit que ce n'est pas dans ce contexte-là où il demandait à aller chercher des armes ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui est enterrée et qu'on doit aider maintenant à ressusciter. Maintenant, si dans un premier, vous obligez cette opposition à se faire enterrer, ou d'une manière ou d'une autre, vous bastonnez les gens, un député sénégalais qui est chez vous, vous le violentez à un moment donné. Les activités politiques, ça, c'est difficile maintenant à mener. Et lorsque vous déclarez qu'il n'y a même pas de détenus politiques dans un pays, alors qu'on en connaît, là, je pense qu'il y a problème. Donc, il va falloir que les acteurs politiques à un degré tellement élevé puissent quand même mesurer la
tension. Okay. Oui, docteur, un mot de la fin,
oui,
pour rapidement
continuer. Je voudrais juste préciser que la campagne aura lieu à Tocoin Trésor. Oui, quand vous quittez Ranco pour aller à Tocoin Trésor, vous allez trouver une agence de l'UTB à votre gauche. Devant l'agence de l'UTB, vous tournez à droite. Vous rentrez dans le corner, troisième immeuble à droite. Vous êtes à l'association Eagle Africa. Et les examens démarrent les matins de 6h45. Jusqu'à 15h dans la
tel que je l'ai dit, je vous ai promis.
Le contact, pour se retrouver, c'est le 80. 12, 17, 26, 54.
92 17 26 54.
D'accord. Merci beaucoup, docteur, d'être passé hein, dans cette émission. C'est un sujet très intéressant. Nous reviendrons là-dessus. Le contact, c'est 92 17 26 54. Merci d'être passé, chers confrères. Merci d'être passé, Sylvestre Béni. Merci, Joachim Loco. Merci, Justin Anani. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi, vous qui nous avez suivis. Merci, grand merci à vous. Thomas était d'Atelier à assurer la mise en onde. Jérôme Akouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain, mais demain nous allons animer une émission spéciale à Radio du Littoral. C'est et spécial bien sûr, puisque chaque dernier vendredi que nous animons souvent l'émission la Radio du Littoral, mais spécialement demain jeudi nous allons l'animer, puisque vendredi est férié. Nous serons ensemble demain et c'est dans une localité plus éloignée de la capitale. Nous allons vous donner plus d'informations demain en direct dans cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.